Le lendemain de son entrée royale à Jérusalem, Jésus retourna au temple. Pour la deuxième fois de son ministère, il chassa les marchands et les changeurs de monnaie de l'enceinte du sanctuaire. En quittant Béthanie pour aller à Jérusalem ce matin-là, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Alors il dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et à l'instant, le figuier sécha. On était au printemps. Ce n'était pas encore la saison des bonnes figues, celle d'été. Mais en Palestine, les figuiers produisent en hiver de petits fruits comestibles de qualité inférieure, appelés figues vertes. Celles-ci apparaissent avant le feuillage. Cet arbre donc, ayant des feuilles, mais aucun signe de fruit, était stérile. Ce geste inhabituel de Jésus était une sorte de parabole transposée dans les faits. Quelque temps auparavant, Jésus avait prononcé une parabole concernant un figuier planté dans une vigne, endroit où le sol, étant cultivé, était propice au figuier. Mais cet arbre-là ne donnait aucun fruit. Le propriétaire de la vigne patienta pendant 3 ans, puis, ne recevant toujours pas de récolte, il donna l'ordre au vigneron de l'abattre. Le vigneron lui demanda d'attendre une année encore, en disant qu'il creuserait autour de l'arbre et y mettrait du fumier. Si, après cela, le figuier ne donnait toujours pas de fruits, alors on le couperait. Le figuier était un emblème d'Israël. Dieu attendit de lui des fruits spirituels, car il en avait pris le plus grand soin. Il avait donné à son peuple la loi, les prophètes et, pour finir, son propre fils. Or, la nation, qui avait l'apparence extérieure d'une vie juste, ce que représentaient les feuilles, n'emportait pas les fruits intérieurs du cœur. Cette parabole, traduite en actes, était un avertissement sévère, image vivante du jugement à venir. Le jour suivant, le mardi, en se rendant à Jérusalem, Jésus et les disciples passèrent près de l'arbre. Pierre dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus répondit en leur parlant de la foi. « Ayez foi en Dieu, leur dit-il. Si vous aviez de la foi, non seulement vous feriez ce qui a été fait au figuier, mais encore vous déplaceriez même des montagnes. » Puis il ajouta, « Quand vous priez, pardonnez aux autres, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. » En arrivant à Jérusalem, Jésus se rendit au temple, et il se mit à enseigner le peuple. Les chefs des prêtres et les anciens survinrent pour l'interrompre. Ils lui demandèrent par quelle autorité il agissait ainsi et de qui il tenait cette autorité. Les chefs voulaient prendre Jésus au piège afin de pouvoir le dénoncer. Si Jésus admettait publiquement qu'il était le Messie, le Fils de Dieu, les prêtres l'accuseraient de blasphème. S'il se disait le roi d'Israël, on le dénoncerait comme traître auprès des Romains. Et s'il n'avouait aucune autorité, on le condamnerait comme imposteur. Jésus répliqua par une autre question. « Si vous me répondez, dit-il, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Cette question mettait les adversaires de Jésus dans l'embarras, car Jean-Baptiste avait reconnu devant tous que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu. Admettre que Jean fût un vrai prophète envoyé par Dieu, c'était aussi admettre que ses paroles étaient vraies. Mais si au contraire les chefs reniaient Jean, la foule se mettrait en colère, car tout le peuple tenait Jean pour un prophète de Dieu. Pris au dépourvu, les chefs raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule. » On nous lapidera, car tous tiennent Jean pour un prophète. » Alors ils répondirent, « Nous ne savons. » Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Nous parlerons demain des paraboles des deux fils et des mauvais vignerons.